Chapitre 4. Après 15 jours de course à la recherche d'un travail intelligent, André finit par accepter, de guerre lasse, les offres d'un éditeur qui lançait les premiers fascicules d'une mécanique populaire. Il s'engagea à dessiner toutes les figures illustrant le texte à raison de 6 francs pièce. Un ami lui avait proposé, ce jour-là, une place de contremaître dans une usine qu'il dirigeait pour le compte d'une compagnie parisienne. Il avait refusé, avait même paru surpris de cette proposition. L'autre avait dit « Alors, tu ne veux pas être contremaître ? C'est le titre qui t'ennuie. Mon cher, on accepte ce que l'on trouve quand on est sans le sou. Ce n'est pas le titre, c'est… » Il hésita, balbutia. « C'est beaucoup trop loin de chez moi. D'ailleurs, je voudrais pouvoir travailler à la maison. Ah, une femme, une maîtresse à surveiller, hein, pauvre vieux. Ma maîtresse n'est pas à surveiller, je te le jure. Alors c'est pire. Tu as besoin d'entendre claquer ses jupes autour de toi pour travailler. Pauvre ami, pauvre Villaros, qui ne s'excite que sous le fouet. Et ton invention, pouh, abandonnée. En voilà une qui te fera beaucoup de mal tout en t'aimant bien. Elles sont toutes comme ça, vois-tu. Une femme qui est à soi, réellement à soi, c'est bien embêtant. On bat dans la vie avec l'inquiétude trembleuse d'un jeune couple qui visite une machinerie. Il y a des courroies, il y a des engrenages à éviter. L'homme passe sans encombre. La femme, elle, a tant d'étoffe autour d'elle qu'elle peut se laisser prendre. Quand elle sort de là, saine et sauve, les machines ont bavé sur sa robe claire. Et ta morale ? Ma morale ? On ne conduit pas une jolie femme dans une machinerie. Sans doute, mais si la jolie femme ne veut pas quitter qui elle aime. Tant pis pour elle, tant pis pour qui elle aime. Je me sauve, tu m'effraies. Alors tu refuses. Je refuse et je te remercie. Enfin, bonne chance. Si vous trouvez des charmes à votre suicide, j'ai tort de prêcher. Il est des amoureux qui rêvent d'une chambre meublée, d'un petit lit et de mignons réchauds à charbon. Moi, je suis pratique. À l'usine, je mets des vestons solides. Hors l'usine, j'use de maîtresse plutôt commune. Je ne suis qu'employé. Quand je serai patron, j'aimerais peut-être un petit être très fragile et très précieux. De retour au logis, le jeune ingénieur fit part à Simone des propositions de son ami. C'était tentant, il me promettait 20 francs par jour. Mais il allait être loin de toi et… Tu n'as pas pu, vrai ? Si vrai que, pour te revoir plus vite, j'ai failli renverser dans la rue une vieille marchande qui occupait tout le trottoir avec ses 2 paniers d'anguilles de mer. Tiens, voilà du travail. Il jeta sur la table un rouleau de papier qu'il déficela, étala des carrés de Bristol, expliquant « Chapelle, l'éditeur, me donne des modèles de machines à simplifier. Je dois indiquer par des traits le mécanisme alourdi par les fioritures et le clinquant des constructeurs. C'est un travail un peu monotone. Un travail de manœuvre, mon André. En attendant mieux, j'ai accepté. C'est humiliant. Humiliant. Ne restais-je pas près de toi tout le jour ? Chapelle me paye 6 francs chaque figure. Je puis gagner mes 10 ou 12 francs par jour. C'est peu, bien peu, mais de temps à autre, je continuerai mes démarches près des capitalistes. Nous trouverons quelques banquiers intelligents, un jour ou l'autre. D'ailleurs, nous nous aimons et s'aimer, n'est-ce pas le but, n'est-ce pas la fin de tout ? » Dès 6 heures du matin, André s'asseyait près de la table où étaient rangés ses outils de dessinateur industriel. Tire-ligne, compas, équerre, petits flacons minuscules d'encre de Chine, banderoles d'or, godets de porcelaine. Par la fenêtre ouverte sur le parc Montsouris, des bouffées d'air soufflaient à sa face une fraîcheur embaumée et reposante, pendant que les enfants les d'oiseaux s'égosillaient en des pépiments neufs. Il oubliait toutes ses ambitions, ne souffrant plus du besoin de créer, d'attacher son nom à une découverte utile. Il se rappelait, souriant, les heures d'ennui passées au temps où il remettait autrefois, au net, les épures de ses problèmes de mécanique. Le labeur machinal qui l'agaçait jadis lui semblait maintenant réconfortant. D'ailleurs, comment imaginer, quand tous ses pensées, tous ses besoins, tous ses désirs tendaient vers elle ? Il regardait la porte de faux chêne vernie qui le séparait de l'aimer et la voyait dormir, le bras étendu sur l'oreiller, la tête lasse tombée sur l'épaule, la gorge émergeant des cassures changeantes des linges que son souffle animait. Elle reposait, très calme, très confiante, le sourire satisfait aux lèvres. Il se levait, poussait vers la porte, se promettant de ne pas l'éveiller, de ne pas trop s'approcher de sa chair attirante. Les jupes étalées sur la moquette, les bas souples, les petits souliers spirituels, gamins, tout le vêtement léger du corps aimé, tombé la veille, en la hâte du coucher, lui semblait devoir être des choses très précieuses, lui appartenant par droit de conquête. Il les aimait de la faire désirable en la cachant si peu. Il se baissait, et à genoux, maniait les étoffes, maniait les batistes, maniait les dentelles, les doigts s'accrochant aux agrafes, se piquant aux épingles traîtresses. Il posait les mignonnes chaussures en équilibre sur sa main ouverte, attendri de les voir si petites, leur souriait. Brusquement, la crainte d'être surpris en l'adoration des escarpins lui faisait jeter un coup d'œil inquiet sur l'amant endormi, et debout, le coude appuyé sur la tablette de la cheminée, il la contemplait heureux de la quiétude du corps, émerveillé par le dessin si pur des lèvres entrouvertes par un souffle calme. Les cils, tombés longs sur la paupière inférieure un peu meurtrie, étaient agités bientôt par des tremblotements nerveux. Les lèvres s'arquaient en mou, le bras se contractait légèrement sur l'oreiller. Le jeune homme se penchait sur le lit, inquiet, craignant d'avoir éveillé Simone, voulant fuir. Les yeux de l'aimé s'ouvraient grands, rieurs. Lui se penchait, la baisait au front, disait honteux « Dors, dors, ma chérie. Moi, je vais travailler. Je t'ai veillé malgré moi. Un canif que j'avais oublié sur la cheminée. » Simone ripostait. « Ce n'est pas bien de profiter de mon sommeil pour voir si je suis laide. Mais même endormie, je sens, je devine que tu es là. Alors, je me réveille. » La porte fermée, courbée sur ses dessins, il attendait presque avec impatience que Simone vînt se pencher sur son épaule. Il vivait en un besoin incessant de huis clos, oublieux du monde extérieur. André ne songeait plus aux rêves ébauchés au temps où il voulait du luxe, beaucoup de luxe autour de sa vieille mère. Simone oubliait bon papa Gosselet et s'accusait d'être ingrate quand elle pensait aux petites joies de son enfance, mais elle y pensait si peu. Chaque soir, au crépuscule, les amoureux allaient s'asseoir dans le parc près de l'étendue d'eau profonde de 10 centimètres, dénommée lac. Elle, en amoureuse, suivait d'un regard ami les couples d'ouvriers qui passaient devant leurs bancs, ombres enlacées, anonymes, laides peut-être, mais attirantes par le mystère des propos chuchotés, par le marché lent sur le gravier qui criait. Des mots nus prononcés haut blessaient parfois sa pudeur de jeune fille, mais elle souriait, devinant aux petits cris des femmes les hardiesses des grosses mains masculines. Quand les formes noires disparaissaient au loin sous les sols, elle éprouvait un regret singulier de ne pas savoir ce qui adviendrait de ces idylles simples. Lui, le col renversé, suivait l'allée de taches blanches sur les eaux, la chair de l'aimé près de sa chair, satisfait. À travers les feuillages des peupliers, les lumières de maisons proches luisaient, très douces, comme des veilleuses. Les cygnes et les canards se pourchassaient avec des cris comiques sous les arbustes de l'île qui faisaient une tache brune sur le lac plaqué de lueurs sanglantes qui n'étaient que les reflets de la suspension voilée de roses aperçue à la fenêtre d'une maison voisine. Les vieux gardiens marchaient très raides, devenus jeunes la nuit venue. Une tristesse douce envahissait les amants et ils se prenaient les mains pour ne pas effaroucher le grand silence berceur de leur félicité. Un soir qu'ils se dirigeaient vers une allée déserte, où ils pensaient être plus seuls, un gardien les rejoignit à grandes enjambées et tout essoufflé, appuyé sur sa canne. « Pas par là, monsieur. Il y a trop de vilain monde du côté de la cascade. Un mauvais coup est si vite fait. Les gens comme il faut s'assoient près du lac. Il y a des drôles et des drôlesses dans les coins, monsieur. » André, impatienté, allait passer outre quand Simone, d'une pression de coude, lui conseilla de regagner leur banc. Après avoir remercié le vieux gardien qui salua, s'excusa, André dit d'un ton de reproche « Comment ? Tu es peureuse avec moi ?»« Moi, peureuse, non ?» Elle posa son front sur l'épaule de l'aimé et chuchota « Je suis bien heureuse. »« Ne sommes-nous pas toujours heureux ?»« Si, mais aujourd'hui, je t'aime mieux que les autres jours. » »« Et pourquoi, Monette ? Dis vite ton petit secret. » »« Je crois que... » Elle pencha la tête vers l'aimé et, haussant les lèvres, avoua sa grande joie. « Je n'osais pas te le dire. Je craignais de me tromper, vois-tu. Mais maintenant, je sais que je suis mère. Et j'ai eu peur pour lui, peur pour celui qui viendra de nous. Oh, mon ami, que je suis heureuse, que je suis heureuse !» Elle pleurait. André baisait ses cheveux, doucement, l'enlaçant d'une étreinte protectrice. À un frisselis des peupliers bordant le lac, le jeune homme s'alarma. « Tu vas avoir froid. Rentrons, mon aimé. Il ne faut pas faire d'imprudence. Simone dit, souriant, « Je crois que je te serai plus cher quand je t'aurai donné un fils, que de petits soins déjà. » Alanguie, elle s'appuya fortement sur le bras d'André et se laissa conduire vers leur nid. Lui marchait à petits pas, pris d'un respect religieux pour sa jolie compagne de vie, inconsciemment heureux d'avoir perpétué l'espèce, continué l'humanité.